Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, dixième épisode, épisode numéro 9. Et aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux tels que Geoffroy Coupry. Bonjour Geoffroy Coupry, qui êtes-vous?
Bien le bonjour, moi c'est Geoffroy et chez Clever, je m'occupe d'écrire du Rust et d'amener des octets au bon endroit.
Merci, je suis aussi accompagné d'Hubert Sablonnière. Bonjour Hubert Sablonnière, qui êtes-vous?
Bonjour, je suis Hubert Sablonnière. Moi, chez Clever, je suis l'homme qui murmurait à l'oreille du JavaScript, du front-end, des composants et de notre ligne de commande aussi.
Merci, je suis accompagné d'Alexandre Berthaud. Bonjour Alexandre Berthaud, qui êtes-vous?
Bonjour, alors Alexandre, je suis dev chez Clever, mais moi plutôt côté back-end, et je fais joujou avec tout ce qui est base de données, etc.
Merci. Alors, c'est un épisode avec Geoffroy et Hubert, donc je vais commencer tout de suite. On va finir sous l'heure. C'était mesquin, c'était gratuit. Et je commence par un lien que moi j'ai amené, et c'est un lien sur l'annulation du Privacy Shield dont on a parlé la semaine dernière. Et il y avait pas mal de questions qui se posaient, à savoir quand est-ce que cette décision était rentrée en application, par exemple. Et la Cour de justice européenne a dit, en fait, c'est maintenant, ça y est.
vous n'avez... Attention, c'est maintenant.
Ouais. C'est exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe en pratique? En pratique, les entreprises sont responsables elles-mêmes de savoir si, quand elles exportent des données vers d'autres pays qui ne sont pas dans l'Union européenne et donc sous la loi la donnée européenne, c'est leur responsabilité de savoir si, par exemple, j'envoie mes données aux US, si les lois de protection de la vie privée et des données privées des gens aux US complient avec... Les lois européennes. Alors, la réponse tout de suite est non. C'est pour ça qu'on avait un Privacy Shield et c'est aussi pour ça que ça a sauté. C'est qu'effectivement, le Privacy Shield n'était pas une garantie suffisante légalement pour que ce soit le cas. Ça veut dire que globalement, il faut revoir tous les accords, entre guillemets, ou en tout cas toutes les conditions auxquelles vous souscrivez en tant qu'utilisateur quand vous filez vos données. Il faut toutes les revoir au cas par cas.
Oui, sur la plupart des pays hors de l'UE, ça s'applique, mais aussi aux US. Et pour les US, on sait que de toute façon, avec NSA et tout ça, c'est mort. Ça ne rentrera pas dans le cadre de cette annulation. Donc, que vont faire les boîtes américaines? Est-ce que ça va se passer comme avec le RGPD et les warnings de cookies, etc.? Ben, on va voir quand ça commencera à taper et amener tout le monde au tribunal, quoi.
Oui. C'est ça, parce que indépendamment de la partie application, parce que de toute façon, ça y est, c'est appliqué, quand est-ce qu'il va y avoir les premiers procès, quoi? On va bien rigoler. Et toujours en parlant de choses rigolotes, Facebook troll, et de l'Europe, Facebook a décidé de troller un peu la Commission européenne. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a actuellement des poursuites en trust de l'Europe, de la Commission européenne à Facebook. Et pour alimenter leur poursuite, ils ont demandé à Facebook de leur fournir tout un tas de données. Et Facebook a dit oui, mais alors il y a beaucoup de données perso. Du coup, ils ont demandé à la Cour de justice européenne si la Commission européenne avait bien le droit de faire ça. Parce qu'il y a énormément de données privées. Dans l'article, ils mentionnent Qualcomm qui avait déjà essayé de faire ça et qui avait été débouté par la Cour de justice européenne. Donc, wait and see.
Et c'est quoi qu'ils demandent? C'est genre de vérifier s'ils partagent pas trop de trucs, genre entre Facebook, Instagram et WhatsApp, ou des trucs qui ont rien à voir ou...
En fait, on ne sait pas trop ce qu'ils demandent. Ils demandent des documents, et parmi tous les documents, ils demandent des documents qui contiennent un certain nombre de phrases ou de mots. Comme par exemple, dans l'article, ils disent « Big question, shutdown is not good for us ». Et ça, apparemment, ça implique qu'il faudrait donner plein de données perso. Et c'est pour ça que Facebook n'est pas super motivé. Et demande donc à la Cour de justice européenne, mais vous avez le droit de faire ça, c'est légal.
C'est marrant que ce soit la branche légale de Facebook qui, d'un coup, ait une conscience qui lui apparaisse par rapport à la vie privée. Je ne sais pas que c'était de là que ça allait venir.
C'est sûr qu'après Cambridge Analytica, il y a de quoi se poser des questions. Et ils disent effectivement qu'il pourrait y avoir des informations sur la vie privée, sur la santé, sur plein de choses à caractère privé. Effectivement.
D'accord. À surveiller, quoi.
Et apparemment, ils ont aussi demandé à la Cour du Luxembourg s'ils ne pouvaient pas carrément annuler le machin. Annuler la demande de données.
Pourquoi ils n'ont pas demandé la cour allemande ou française?
Je ne sais pas.
Si le but c'est de faire traîner, ils vont demander partout, ils vont repousser les échéances et voilà, ça va être assez classique. Hein. Même si on leur refuse, ils auront peut-être gagné une ou deux semaines, ce sera toujours ça. Quoi.
Voilà, et donc en parlant de faire traîner, parlons d'Orange. C'est gratuit. pardon. Alors, vous avez peut-être vu qu'un partenariat a été annoncé entre Orange et Google. Ouais. Orange, c'est le sacro-saint fournisseur français. France, les grandes économies, tout ça, les grands acteurs de l'économie, partenaire avec Google pour tout ce qui est IA, Edge et je ne sais plus quoi. Alors,
Edge Computing.
Ouais. Et Google, ils sont très bons à ça, tu vois, pas de souci. Et en même temps, Orange était déjà partenaire Huawei puisque c'était CloudWatt qui était opéré par Huawei de mémoire. Enfin, genre, a priori, un certain nombre de services cloud d'Orange sont partis en Chine. Fine. Non, c'est pas très souvent, effectivement. J'ai mis le lien sur le partenaire en tant que tel. Il y a un thread Twitter de Mathias Herbert, qui est le créateur de Warp 10, qui est une base de données qu'on utilise énormément chez Clever Cloud, et qui est un mec super sympa, et qui explique que lui, son problème, c'est pas tant avec. Le partenariat en tant que tel, parce qu'encore une fois, Google, c'est des gens très bien côté techno et fine, tu vois, si tu as besoin de techno,
c'est ce qui est positionné. Dans le thread, il redit, moi, je ne vais pas critiquer ce choix techniquement parce que ils ont les features et ça marche, etc.
Parce que techniquement, ça a du sens. Et effectivement, ils critiquent cette espèce d'aveuglement que la France a continué à pousser Orange comme le champion de la tech en France, alors qu'en fait, des vraies innovations chez Orange, ça fait un moment qu'il n'y en a plus. Et il mentionne aussi un peu tous les échecs précédents où Orange a récupéré énormément d'argent public et où ça ne s'est pas terminé rien. On pense au projet Andromède, qui était donc le projet de Cloud Souverain qui a donné naissance à CloudWatt, CloudWatt est donc moitié chinois maintenant. On peut considérer
qui n'a jamais rien rapporté quoi, par rapport à l'investissement initial, c'était ridicule.
Ouais. C'est ça, c'était pas un échec, ils ont reçu l'argent.
Ouais, c'est ça.
De leur point de vue, ça a marché. Hein.
Ouais.
Ça, et justement, Mathias critique plutôt ce côté. Et c'est vrai que c'est un discours qui est pas mal tenu dans les articles. J'ai essayé de prendre Reuters, qui est assez neutre, mais dans les articles français. Où c'est Orange, champion de la tech en France et tout. Ouais. C'est vrai que c'est. Y en a marre, quoi. Tout bêtement. Voilà, donc n'hésitez pas à jeter un œil sur le thread Twitter de Mathias et à suivre Mathias, il dit plein de choses intéressantes.
Ok.
On passe au lien suivant, la suite de UFO VPN, ou du VPN UFO dont on a parlé la semaine dernière, il y a 15 jours, je ne sais plus, qui était le VPN qui protège vos données privées, mais qui a eu un leak. De données privées.
C'était la semaine dernière, c'était Alexandre.
Ouais, ça, c'est la semaine dernière. Le problème qu'ils avaient eu, c'était des fuites de données d'une DB élastique qui était complètement ouverte. Et dans cet article-là, on voit un petit peu la suite du truc, c'est qu'il y a une attaque qui s'appelle la Miao attaque, la Miao attaque. Je vais pas faire un Miao anglais, c'est pas facile. En fait, c'est juste des gens qui ont recommencé ce qui s'est déjà fait il y a plusieurs années sur des Mongo et d'autres OS d'autres fois d'ailleurs. Juste scanner le réseau à la recherche de DB ouverte et remplacer les données par Miao, du coup. Et
donc, en fait, ça fait vraiment juste suite à ça. Les auditeurs ES, c'est Elasticsearch.
Oui, pardon.
Enfin, peut-être qu'il y en a qui...
On ne sait jamais.
Je t'ai coupé, pardon.
Moi, quand je dis PG, en général, on me regarde avec des grands yeux. Et en fait, c'est grâce
ou graine, tu vois. Je vais faire Jean-Michel acronyme et je vais essayer de... Vas-y, reprends.
Donc, voilà, c'est vraiment juste la suite de cette attaque-là... Juste plusieurs DB EVC Mongo qui se sont fait vider et remplacer par juste Miao. un petit rappel qu'il ne faut pas exposer sur Internet des DB sans aucune protection, ce n'est pas une très bonne idée. Bien que ce soit assez évident.
Et ce qui est amusant, c'est le caractère. Ils mettent juste Miao, quoi. Ils ne demandent rien.
Ouais, c'est tout. Ouais. Oui, c'est ça. C'est vraiment juste pour faire chier. Ouais.
C'est pour te donner une leçon, peut-être un peu.
Ouais. En fait, ils ont corrigé le business du FO parce que avant, c'était un truc qui ne prend pas de log et qui avait des logs ouverts à tous les vents. Ils sont arrivés, ils ont enlevé les logs. Pas bien, hein, en fait. Ils leur ont fait une fleur, je trouve, là-dessus quand même.
Hein. Problème réglé.
Voilà.
C'est clair.
Je suis venu sur votre infra, j'ai réglé le problème et d'ailleurs j'ai mis à jour vos serveurs tant que j'étais là, voilà, pas de problème.
Et ben justement, en parlant de mise à jour auxquelles on n'a pas forcément, on n'a rien demandé à personne, en tout cas Twilio n'avait pas demandé à qui que ce soit de mettre à jour un certain nombre de scripts JavaScript et ça leur est arrivé.
Oui, alors en fait, chez Twilio, donc c'est arrivé la semaine dernière, un truc comme ça, même pas. Ils ont eu un. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu un incident il y a plusieurs mois, c'est mieux décrit dans l'article. Pour régler ce truc-là, ils ont réutilisé des buckets Amazon qu'ils ont, ils en utilisent plein. Et pour une raison un peu de ils voulaient résoudre un incident et ils ont voulu aller vite. Ils ont oublié de repasser certains de ces buckets en read-only en fait. Et donc ils ont eu plusieurs buckets qui étaient accessibles en écriture et notamment certains qui exposaient leur SDK JavaScript. Et donc il y a quelqu'un qui a accédé à ce bucket, qui a modifié le fichier JavaScript et qui sert à pas mal de sites. Alors il reprécise, je vous conseille de lire l'article, que la plupart des gens passent par twiliocdn.com qui est en fait chez c'est un CDN, j'ai oublié chez qui,
chez Cloudflare je crois,
ouais Cloudflare, ouais voilà, qui derrière tape sur leur bucket S3 et donc en gros dans leur report ils disent que à leur connaissance il n'y a pas eu d'usage malveillant, ça a été au sens volé de l'information. Il y a eu a priori la personne qui a eu accès a voulu mettre des publicités et vu le code, ça a peut-être même pas marché très longtemps. Donc il reprécise, il y a bien un chapitre, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour que ça n'arrive plus. Le report est plutôt fair. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Alexandre, tu avais partagé le lien aussi.
Ouais, ben. Ils vont assez en détail dans le truc. Une petite précision quand même que tu n'as pas donnée. Tu dis que ça fait plusieurs mois. En fait, ça fait 5 ans.
Oui, voilà.
Ils disent dans l'article, ils ont mis en place ces buckets-là en 2015. 5 mois après, ils ont eu un problème. Ils ont mis l'écriture en public le temps de debug, un truc
ça,
en prod.
Le 5 mois,
mais et après, ils ont oublié. Ouais, donc, ouais, le truc est resté en écriture publique pendant 5 ans. Le report me semble honnête. Ça arrive dans l'absolu, j'ai envie de dire. Vouloir corriger un truc en prod vite fait et oublier derrière, c'est sûrement pas les premiers à qui ça arrive. La question que je me pose, c'est pas par rapport à Twilio, c'est plus par rapport à S3. À quoi sert l'option de mettre un bucket en écriture publique? Dans quel cas d'usage ça peut être utile? Je trouve ça fou.
Tu veux dire en écriture sans creds, quoi?
Sans autre, ouais.
Ouais. C'est une bonne question.
J'ai vu dans les commentaires de l'article posté sur, je sais plus si c'était sur Reddit ou ailleurs, quelqu'un qui disait qu'il utilisait cette feature-là pour faire un bucket temporaire d'upload où après son app va chercher le fichier et le mettre ailleurs. Alors très bien, mais je pense qu'il n'a pas entendu parler des URL pré-signées.
J'allais dire oui.
La feature est là pour ça, donc il ne faut pas mettre de bucket en écriture publique, ça n'a aucun sens. Enfin, moi, je ne vois pas de cas d'usage utile.
Et du coup, on en profite pour peut-être évoquer rapidement le concept de sub-resource integrity. Donc tout le problème, c'est que ce fichier JS est chargé via des CDN dans plein de sites web. Et donc, à partir du moment où vous mettez cdn.twilio.com/sdk, machin, ça charge un script qui vient de chez eux. Et si ce script est troué, potentiellement, ils peuvent faire des choses dans votre page. Là, a priori, ça n'a pas été le cas. Et donc, il y a une fonctionnalité, peut-être que Geoffroy, tu veux en parler, peut-être, je sais pas, qui s'appelle Sub-Resource Integrity.
Le concept, c'est que quand on va importer un élément extérieur, donc un script JS ou du CSS. En fait, dans la balise, on va pouvoir mettre un hash du fichier et indiquer aussi des valeurs par rapport à l'origine, si c'est du même domaine ou si d'ailleurs. Donc, ça veut dire que si le fichier a été modifié, eh ben ça ne se chargera pas dans la page.
C'est ça.
Alors, ça va impliquer pas mal de choses, notamment au niveau des caches, de savoir qu'on aura toujours la bonne version qui correspondra au bon HTML. C'est pas une feature qui vient gratuitement non plus.
Non, ouais. C'est un peu ce que moi j'en entends souvent, c'est que je crois qu'à une époque, quand on avait encore Google Analytics quelque part chez nous, je voulais le mettre. Sauf que le script Google Analytics, il change de temps en temps. Et justement, sur ce genre de script, pour avoir des chats interactifs dans ton app, enfin, tous ces scripts tiers qui viennent te fournir un peu de features ou autre, c'est rarement un truc qu'ils mettent en avant, alors que t'aimerais bien pouvoir dire, donnez-moi le hash, et ce hash-là, moi, je lui fais confiance, je vais faire auditer ce qu'il y a dans le script à mes équipes, et si vous le changez, prévenez-moi, mais au moins, moi, je le mets. Et donc, ça existe, mais je le vois pas forcément souvent utilisé dans la nature, que ce soit côté fournisseur de services ou côté implémenteur.
Ça ne s'est pas popularisé un peu à cause des grosses chaînes de build type Webpack et autres, où du coup, à la sortie de ton Webpack, tu peux dire, c'est comme ça que...
En fait, t'as pas forcément de besoin de le faire sur tes propres scripts à toi. Le but, c'est plus de le faire sur les scripts tiers des partenaires que t'intègres. Par exemple, un Twilio, un Analytics, quel qu'il soit. Et donc, à ma connaissance, dans les chaînes de build, j'en connais pas trop. Par contre, et on verra si à la fin on a le temps d'évoquer un lien que j'ai posté, mais quand tu commences à charger des JS via une cascade de différents modules, autant sur la balise tu peux mettre le fameux hash, mais tu peux le mettre sur le premier. S'il y a toute une cascade, tu ne vas pas pouvoir faire ça. Et il commence à y avoir des discussions pour pouvoir faire ça.
Ben, je vais poser la question parce qu'on a ça dans Hugo te permet de sortir ça. En fait, tu peux avoir tout un tas de fonctions de modification ou de transfo, par exemple CSS ou CSS. Et quand tu écris ça, en plus, dans le pipe, il te permet de récupérer le hash et de rajouter le hash.
Oui, dans le nom du fichier, pour des questions de cache, etc. Oui, ouais.
Non, pas dans le nom du fichier, juste d'avoir exactement le hash de ce que tu viens de générer.
D'accord, cool.
Ça fait partie du pipeline de base. Bref, next, on parle de Boursorama. Boursorama Bank et d'une fuite de données un peu sale. C'est Uber, encore une fois, je crois.
Oui, alors ce lien est donc passé dans ma timeline sur Twitter. C'est un article publié par Pixel de Tracking. Donc c'est quelqu'un qui apparemment a bossé dans le monde publicitaire avant et qui a un blog où il parle un peu de toutes les pratiques de tracking du monde de la pub, entre autres. Et donc là, il explique que quand vous êtes connecté avec votre compte client chez Boursorama, il y a tout un paquet de requêtes qui sont faites vers des origines tierces, Trust Commander, SAS, CDN, Rubicon Project, et Smart Ads Server. Il analyse un peu et dit, il y en a quand même 4, ça a l'air d'être de la mesure d'audience, voire carrément de la publicité. Et donc là, on peut discuter de la pertinence de ce genre de choses dans ton propre espace client. Il y a un moment, tu payes ta banque. Tu veux peut-être qu'elle te fasse de la pub quand tu es sur le site institutionnel, mais bon. Et encore, ça, c'est un sujet à débat. Ce qu'il a gratté un peu, c'est qu'il y a un de ces trucs-là, enfin deux, mais on va parler du premier, AT Internet, donc qui est anciennement Exity, donc là, c'est la mesure d'audience, qui est chargé via un domaine qui s'appelle c0011.boursorama.com. Et donc, en fait, c'est là que ça devient intéressant, c'est que on pourrait se dire, ça vient de chez Boursorama, sauf qu'en fait, il y a un CNAME DNS qui est déclaré, qui fait qu'en fait, les requêtes qui partent de votre navigateur vers ce domaine avec des chiffres .boursorama.com, en fait, ça part chez AT Internet. Et donc là, ce qui est assez intéressant, c'est que ça va avoir des impacts sur la manière dont les cookies sont gérés. Je vais d'abord expliquer ça et après on reviendra sur cette pratique. Quand vous déposez un cookie, l'idée c'est que normalement, Boursorama.com il dépose le cookie, par exemple Session ID 36 pour maintenir connecté le client. Et ce cookie va partir dans toutes les requêtes qui partent vers Boursorama.com. Et en fait, si vous voulez que ce cookie parte pour toutes les requêtes qui partent vers étoile.boursorama.com, il faut utiliser l'attribut domaine. Donc, c'est une action volontaire, on va dire. Et donc, quand vous faites ça, les cookies partent sur tous vos sous-domaines de votre propre domaine. Et donc, on pourrait se dire, un cookie qui est déposé comme ça et qui part vers tout ce qui est boursorama.com, c'est OK. Sauf qu'en fait, en l'occurrence, ça part pas vraiment vers chez Boursorama. Et ce qui est décrit dans l'article, c'est que notamment un des cookies qui part, c'est celui qui sert à la connexion. Et donc lui, il a refait une petite démo lui-même où en récupérant juste le cookie de connexion, il arrive à se re-authentifier sur une nouvelle session juste avec ce cookie-là. Donc, si on résume, et ça a peut-être été corrigé depuis, mais cet article est en train de dire que le cookie de connexion part chez un tiers, et donc que ce tiers pourrait se faire passer pour le client X ou Y et se connecter à sa place. Après, je ne connais pas Boursorama, j'ose espérer que c'est comme ma banque ou d'autres banques, que dès que tu veux faire un virement ou autre, il y a une authentification avec un deuxième facteur ou je ne sais quoi. Donc, et puis, le but, ce n'est pas forcément de taper exactement sur Boursorama. Moi, je voulais revenir sur... déjà, là, il y a une faille de sécurité, mais revenir sur ce fameux truc de CNAME, parce qu'en fait, depuis plusieurs années, Safari est assez... on va dire strict sur sa gestion des cookies et notamment des cookies tiers. Brave aussi, il y a de plus en plus, Firefox est rentré dans la boucle, de plus en plus de travaux qui sont faits pour limiter le tracking par cookies tiers. Et donc, du coup, si on avait une requête qui partait vers IT Internet, elle serait bloquée. Et là, juste le fait que la requête parte vers un sous-domaine de Boursorama, il y a tout un paquet, notamment chez Safari, de gens qui détectent pas que c'est un tiers, en fait, tout simplement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que cette requête, cette technique du transformer un cookie tiers en cookie first party via un CNAME, en fait, elle est assez répandue, que ce soit dans l'analyse d'audience, dans la publicité ciblée, etc. Et si c'était un peu difficile à comprendre avec juste l'audio, je vous conseille un excellent talk de moi. Désolé, c'est hyper présomptueux. J'ai fait un talk sur les cookies qui revient notamment exactement sur les règles et comment ça marche et sur cet attribut domaine qui rentre en jeu dans le cas présent. Voilà, l'article est hyper intéressant et puis il évoque aussi d'autres phénomènes autour de ça. Voilà. Si vous n'avez rien compris, vous m'envoyez des questions sur Twitter.
Exactement. N'hésitez pas à noyer Hubert sous vos questions. Il prendra le temps de répondre à tout le monde. On passe à un autre lien sur les bugs de sécu sur Chromium. Chromium, qui on le rappelle, est utilisé par quasi l'intégralité des...
tout le monde sauf Firefox et Safari.
Team Firefox.
Team Firefox. Alors c'est un compte Chromium, un compte Twitter. Il y a peut-être un flux RSS qui s'appelle Bugs Chromium et qui en fait tweet plein de vulnérabilités qu'il y a dans Chrome après qu'elles aient été bouchées. Et donc, c'est maintenu par une société qui s'appelle SecurityMB, ou une personne, je ne sais pas. Et c'est hyper intéressant. Alors déjà, ça poste très souvent, donc ça remet en perspective le nombre la probabilité qu'il y ait des bugs de sécurité dans un navigateur. Là, c'est Chromium, mais c'est pareil sur les autres, faut pas se leurrer. Est assez gigantesque et il y a des trucs qui sont bouchés tous les jours. Alors moi j'ai trié un peu ce qu'on peut accéder à un grand tableau avec toutes les vulnérabilités qu'ils trouvent et surtout on voit combien de dollars ils ont eu via le bug bounty. Vous savez, c'est genre si vous corrigez des bugs de sécu chez nous, on vous donne de l'argent. J'ai trié, j'ai cherché dans les plus chers pour voir un peu ce qu'il y avait de funky et d'intéressant. Et donc je vous ai partagé un lien, je suis tombé sur un article qui dit qu'en tout, via différentes 6 ou 7 vulnérabilités qui tournent autour du même sujet, ils ont récupéré 30 000 dollars de bug bounty, ce qui est quand même pas dégueu. Enfin, là-dessus, Geoffroy, tu t'y connais mieux sur les CVE, etc. Mais Ça me paraît pas mal. Et je vous conseille vraiment de voir cet article et particulièrement de cliquer sur les vidéos où il y a des démonstrations de hack, on va dire. Et donc, quasiment tout tourne autour du fait que quand vous faites, quand vous copiez du HTML dans votre presse-papier, si vous le collez dans un éditeur de texte riche, donc je sais pas moi, celui qu'il y a dans Gmail, l'éditeur de page de Wikipédia, ou vous savez ces éditeurs de texte JS comme CK Editor ou autre, si ce qu'il y a dans votre presse-papier contient une balise script ou plein de ce genre de conneries, potentiellement il y a des vulnérabilités. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'autant je pourrais m'attendre à ce qu'il en trouve dans des librairies, mais pas tant que ça, à ce qu'il en trouve dans le navigateur. Et c'est là que je me suis souvenu, sur n'importe quelle balise dans un browser, si tu rajoutes l'attribut content éditable, en un seul mot en minuscule, tout ce qui est à l'intérieur de cette balise passe en mode éditeur. Et donc, en fait, tu peux, ça devient Word, ta page web. Essayez sur n'importe quelle page, vous le rajoutez sur le body et vous pouvez éditer toute la page. Alors forcément, quand vous supprimez un caractère et que vous en tapez un, ça fait à peu près ce à quoi vous vous attendez. Mais si vous collez ce qu'il y a dans votre presse-papier et que dans votre presse-papier, il y a du HTML, là, le navigateur fait « Attends, il y a quoi dans ton presse-papier ? Je ne vais pas tout mettre dans la page parce que c'est un peu chaud niveau sécu. » Et donc, il montre tout un ensemble d'attaques qu'il a réussi à faire pour faire notamment du cross-site scripting, etc. Et donc, c'est assez bluffant. Donc, c'est souvent des failles dans le système de sanitisation de ce qu'il y a dans le presse-papier qui essaye d'enlever ce qui pourrait être vulnérable. Et il y a une attaque qui est assez dingue. Et franchement, je vous conseille de le voir. Donc, il pousse quelqu'un à faire copier sur un bout de texte qui ressemble à pas grand-chose de grave. Ensuite, il fait coller dans son vrai Gmail à lui. Et en bas de son écran, il a un terminal. Et dans le terminal, on voit caractère par caractère apparaître l'email de la personne qui est connectée sur Gmail. Et là, tu fais « Ah !» Et la manière dont il fait ça, c'est une technique qui est utilisée à pas mal de moments, mais qui ne marche pas partout, qui se sert du texte qu'il peut y avoir dans le DOM et de sélecteur CSS. Et ensuite, donc, tu n'as plus qu'à dire je charge telle sous-feuille CSS si il existe dans mon DOM une balise avec telle lettre dans l'attribut. Et donc, en fait, tu fais ça avec ABCD jusqu'à Z, majuscule, minuscule, plus les chiffres. En gros, à peu près, tu fais ASCII ou presque. Là, tu as le premier caractère. Dans ce fichier-là, tu charges un autre CSS et tu fais une cascade de chargement de fichiers CSS qui, en fait, tu détectes les lettres une par une. Et je vous conseille vraiment, il en a une avec l'email de la personne qui est connectée sur Twitter. C'est plus parlant sur Gmail. C'est plus parlant quand on voit la vidéo. Et une autre où il extrait en fait un CSRF token sur Firefox. Et de se dire que tout ça, ça passe juste avec des chargements de CSS et que tu vois comme dans les films d'Hollywood les caractères apparaître dans les logs à lui côté personne malveillante, c'est assez impressionnant. Et donc, pour compléter cette petite info, il y a une API de sanitisation, de sanitizer, pour prendre du HTML qui vient de l'utilisateur et le nettoyer, on va dire, avant de le mettre quelque part, qui est en travaux pour pouvoir donner ça aux développeurs JavaScript et que les gens arrêtent d'utiliser DOM Purifier, je crois que c'est la lib la plus connue. Au moins, là, elle serait native. Et on peut tous applaudir sans faire trop de bruit avec les mains pour les auditeurs, mais il s'agit d'une spec coéditée par Mozilla et Chrome. Et j'ai envie de dire, ça devient tellement rare ces derniers temps qu'il n'y ait pas que Chrome dans la spec que c'est assez cool. Donc, HTML Sanitizer API à suivre et ce compte Twitter de Bug Chromium est assez, de temps en temps, sur le popcorn, quoi. Je précise juste, il y a les mêmes bugs chez les concurrents. Hein. C'est juste que là.
Il y a un truc que je trouve intéressant sur l'approche qu'ils ont sur le sanitizer HTML. C'est que pendant longtemps, on a eu des problèmes de sanitisation HTML parce que les gens passaient des regex dessus et autres techniques assez moisies en analysant le texte. Là, en fait, ça prend le HTML qui est reçu, ça le parse dans le DOM du navigateur et après, ça fait des requêtes sur ce DOM-là. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de différences sur le parsing HTML vers DOM entre les navigateurs, mais il y en a encore. Donc, si tu peux travailler directement sur le DOM et vérifier que tu as bien les balises que tu veux, le CSS que tu veux, etc., sur la représentation vraiment qui est utilisée par le navigateur, tu es beaucoup plus efficace. Donc, ça, c'est intéressant.
Carrément. Et pour les curieux, vous pouvez aller voir dans les sources, parce que c'est open source de nos composants à nous. Et on a un petit système, par exemple, pour filtrer l'HTML qu'on autorise dans les traductions de nos composants. Et petit système qui autorise que le gras, l'italique, strong, machin. Et pour les curieux, allez voir, c'est assez marrant comment on fait. Et si j'explique comment on fait, on va jamais finir l'épisode.
Non, mais on mettra le lien vers ça.
Ce yes. Bien.
Et donc, lien suivant, on parle de Ruby typé. À la base, Ruby est un langage de script non typé. Et c'est un article qui fait le point sur le. C'est quoi ? C'est une extension ? C'est une gemme en plus ?
C'est pas une extension. Ça va être intégré dans Ruby 3. Mais ça reste un bonus, on va dire. Le langage sera toujours utilisable comme il l'est aujourd'hui. On peut complètement ignorer la partie typée. L'idée de ce truc-là, c'est que, en plus, ce n'est pas quelque chose qui se rajoute dans le langage lui-même. Ce n'est pas une syntaxe en plus dans Ruby. C'est quelque chose qui est à part, dans des fichiers séparés, ce qui peut rappeler les points H en C, pour ceux qui ont fait du C. Donc, c'est quelque chose quand même de relativement limité. Ce qui est intéressant déjà, la première utilisation que je vois qui est vraiment pratique, c'est que sans rien changer dans son usage du langage, juste en laissant l'outil qu'ils vont fournir pour générer les signatures à partir du code qui est déjà là, ça veut dire que derrière, une fois que tu as déjà ces signatures-là, quand tu fais du refactoring, la réécriture d'une partie du code, tu es sûr que ce que tu vas faire va être cohérent. Au moins, il va pouvoir t'insulter si tu as changé la signature d'une fonction sans le vouloir, quoi. Donc déjà, rien que ça, sans changer ta façon de travailler, c'est déjà vraiment un confort supplémentaire bien agréable, quoi.
Voilà, du peu que je vois, ça me rappelle ce que fait TypeScript avec les fichiers .d, .ts.
C'est similaire
aussi,
qui
ont été créés à part pour décrire des librairies qui ne sont pas du tout connues en TypeScript. Tu l'as testé, toi, Alexandre ou...
Non.
Parce que moi, c'est un truc que j'avais vu passer. Oui, non.
Tu parles de TypeScript ou...
Non, non, de RBS.
Je ne crois pas que ce soit testable pour l'instant, en fait.
Alors, c'est peut-être un autre projet, mais j'avais déjà entendu parler d'un type checker autour, mais c'était peut-être un autre projet. Ouais, voilà. Parce que là, c'est la première fois que j'entends parler d'un truc un peu plus natif et officiel avec Maths et compagnie.
Là où ça va être intéressant, c'est aussi justement pour toute la standard lib ou pour des grosses libs connues. Je ne pense pas que, par exemple, Rails entier va passer dedans, mais pour certaines parties pour lesquelles ça aurait de l'impact, genre la manipulation de dates ou des choses comme ça. Quelle est une interface un peu typée par-dessus? Les gens peuvent faire leur site comme ils veulent, en complètement non typé s'ils le veulent derrière, mais les libs qu'ils vont utiliser vont être validés comme ça. C'est un compromis qui est pas mal. Hein.
Ouais.
Et ça peut faciliter la lecture de la doc, en fait, même de la lib standard, ça peut être pratique. Il faut juste la signature suffit, quoi.
C'est un article de Square, et donc déjà ils font du Ruby chez Square. Et on rappelle qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup encore de sites qui tournent en Rails. Et ils prévoient effectivement un support Rails à venir. Toujours dans les releases de choses intéressantes, nous avons un projet de l'ANSI qui s'appelle MLA, qui est un nouveau format d'archives et de compression. C'est un nouveau TarGZ écrit en Rust, évidemment. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Rust.
Annecy, Geoffroy, Rust.
Ça va. Ouais, j'ai regardé, je ne connais pas personnellement les devs du truc, ou je ne fais pas le lien sur les pseudos. Mais, bon.
Mais est-ce qu'ils utilisent Gnome?
Oui, bien sûr.
voilà. On rappelle que Annecy, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Voilà. Et ils font des recos régulièrement aussi, par ailleurs, sur ce qu'il serait bon d'utiliser, à la fois d'un point de vue sécu et d'un point de vue sécu. Faille d'un point de vue sécu, gouvernance, tout ça. Et ils ont aussi conseillé d'utiliser Rust, et du coup, ils mettent ça, ils l'emploient avec ce truc-là.
Mais du coup, c'est quoi MLA, Geoffroy ?
C'est un format d'archives qui supporte la compression et le chiffrement. Mmh. Alors, pourquoi on n'utiliserait pas directement un tar.gz et youplaboum, on chiffre ça avec, je sais pas, PGP ou autre idée marrante dans le genre, parce que c'est pas hyper, hyper adapté. En fait, ce qu'ils voulaient, c'était un format d'archives qui peut être streamé. C'est-à-dire qu'on peut prendre un fichier, les concaténer, etc., les fichiers d'archives comme ça va marcher. On veut pouvoir créer d'un côté sans reprocesser la donnée, créer d'une traite. Faut que ça puisse être sick, c'est-à-dire qu'on puisse aller d'un fichier à un autre ou même commencer à lire au milieu du fichier sans avoir à tout décompresser ou tout déchiffrer, ce qui est compliqué par exemple avec un tar.gz.
Ouais.
Et faut que ça puisse être réparé, c'est-à-dire s'il y a un chunk qui est pété, on devrait pouvoir isoler que c'est ce chunk-là qui pose problème et pouvoir quand même parser le reste.
En fait, c'est des DRM. Ils sont en train de mettre des DRM dans des fichiers vidéo.
Bah, tu as un côté un peu comme ça. Hein. Si tu as un bout de ta vidéo qui est pété, tu peux quand même repartir plus tard parce que tu as tes moyens. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont ajouté donc, du chiffrement avec ESGCM, donc du classique, mais aussi par clé publique. C'est-à-dire qu'a priori, j'imagine que la clé de chiffrement AES, derrière, on peut la chiffrer pour qu'elle ne puisse être récupérée que par quelqu'un qui a une clé privée particulière. Alors, c'est des clés en ED25519 avec l'algo ECIES. Si ça ne vous dit rien, ce n'est pas grave, mais c'est le chiffrement à clé publique, clé privée sur des courbes elliptiques. Donc, il y a pas mal de choses. C'est plutôt intéressant, en fait, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'innovations dans les formats d'archives comme ça récemment. Enfin, pas que j'ai vu, ou alors c'est que tout le monde continue d'utiliser TAR. J'ai pas audité, j'ai pas regardé, j'ai pas vu pour l'instant beaucoup de retours sur le sujet, mais c'est plutôt bien conçu dans l'idée, quoi.
Et donc, c'est une annonce, c'est assez nouveau ou ils l'utilisent déjà chez un peu
C'est assez nouveau. Je sais pas s'ils ont des syndics qui l'utilisent déjà en interne. Mais c'est bien conçu, ils viennent avec leurs outils de fuzzing, et tout, etc. Ils ont leurs specs, c'est à la fois une lib et un exécutable qui peut processer derrière. Mm-hmm. Donc non, c'est assez cohérent comme taf, hein, je trouve.
Cool. Voilà.
Et en plus, c'est bien documenté, tu as un peu toutes les explications de comment ça marche, comment ça fonctionne dans le README directement du projet. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir. Il y a des schémas en ASCII et tout. Non, c'est cool.
C'est du Brotli. Brotli, c'est bien.
Oui.
OK. Autre lien, on va descendre et aller encore plus, descendre dans les couches et aller encore plus bas niveau. Là, on va causer kernel. On va coder kernel et threading. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps, on avait parlé de Green Thread sur ce podcast. Et là, c'est un sujet un peu différent. Où, bah, vas-y, Geoffroy, je te laisse, t'expliqueras ça beaucoup mieux que moi.
Ouais, donc on a les OS qui nous fournissent un système de threading déjà. Ce qu'on peut faire, c'est dans notre app, on crée un thread et puis ça s'exécute dessus. Et puis ça peut causer entre threads, etc. Mais c'est géré par l'OS. On a plusieurs fils de discussion qui sont soit sur un même corps, soit sur des corps différents. Le problème, c'est qu'avoir plusieurs threads à gérer, si on veut avoir plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de tâches qui s'exécutent en même temps dans une application, ben, ça commence à être coûteux en nombre de threads, mais aussi en context switch, c'est-à-dire quand on stoppe un thread et qu'on passe à un autre. Donc, il y a pas mal de langages, de plateformes web notamment, qui sont allés à du threading à type green thread, c'est-à-dire qu'on a un thread OS sur lequel en fait on va émuler plein de petites tâches pour lesquelles on switch de l'une à l'autre. Donc c'est par exemple les Go routines en Go, ou c'est ce qu'on fait souvent avec des futures en Rust, c'est l'async en JS et toutes ces choses-là. Donc c'est pas mal, mais du coup, si on veut quand même profiter de plusieurs threads OS et faire du multithreading, du multicore, bah, on va devoir commencer à scheduler de qui s'exécute sur quel thread, etc. Et ça complique vite les choses. Ouais. Et c'est là où c'est des gens de chez Google, notamment, qui ont bossé sur ça. Ils se sont dit, bah, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir du support, en fait, dans le kernel pour des threads légers qui sont gérés par le côté userland, par le côté application. Ils se sont rendus compte d'un truc, c'est que le switch entre mode user et mode kernel est finalement pas si coûteux. Dans leur benchmark, ils arrivaient à 50 nanosecondes pour passer de l'un à l'autre. C'est, voilà, 50 nanosecondes, c'est pas grand-chose. Par contre, ce qui était extrêmement coûteux, c'était d'aller de stopper un thread et d'en lancer un autre, là où ça coûtait entre 2 et 3 microsecondes, parce que la décision de quel thread s'exécute à quel moment dépend du scheduler kernel, qui lui est quand même beaucoup plus complexe et va se baser sur des signaux qui ne sont pas très, très, pas très fins, du style il y a tel thread qui s'exécute, mais en fait il attend un mutex qui a été trigger à un autre endroit du code. C'est là qu'il y a un coût énorme au thread. Et ils se sont dit, mais on ne pourrait pas juste prendre des syscalls que l'application pourrait appeler pour dire, bah, en fait, moi, j'avais ce thread 1, bah, maintenant, je veux que ce soit le thread 2 qui prenne la main, parce que le thread 1, il peut s'arrêter là, et le thread 2, il ne faisait rien parce qu'il attendait une tâche. Je veux que ce soit celui-là qui s'exécute. Et donc, on a le fonctionnement des threads OS, mais avec la flexibilité qu'on a côté userland. Ce qui permet de switch de l'un à l'autre très, très, très rapidement, mais de profiter quand même derrière de tout l'outillage qu'on avait pour la gestion des threads, parce que ce sont des threads kernels normaux, donc on peut utiliser Nice, on peut les voir comme on a dans les debuggers comme d'habitude. Il y a pas mal de choses intéressantes à faire avec ça. Et c'est beaucoup moins coûteux, effectivement, que des context switch de threads normaux.
Donc, tu as un peu essayé de trouver le meilleur des deux mondes, quoi.
C'est surtout que ça va fournir à des... au langage, à la JVM, à différents serveurs web, un moyen de gérer plein de tâches en même temps sur plein de threads, mais de gérer de manière plus fine le scheduling. Ouais. Parce qu'avant, c'était soit c'est l'OS qui gère tout et puis on n'a la main sur rien, soit c'est l'app qui fait tout dans son coin et le kernel essaie vaguement de comprendre ce qui se passe. Là, il y a une coopération entre les deux, donc c'est quelque chose de très intéressant.
Cool.
J'imagine que tu as des threads qui sont en train de gérer l'UI et au moment où ça fait un switch, ça rame.
Ouais, oui, on avait ça sur Windows 95 principalement. On avait tout qui était sur un CPU et les UI étaient gérés sur le CPU aussi et le rendering aussi. Et heureusement qu'on a plus ça maintenant, quoi.
Non, maintenant, quand tout syncombe les Slack, tu retrouves.
C'est gratuit, ouais. Monsieur Sablonnière.
C'est ce que ça m'est arrivé hier. Bref.
On va passer au lien suivant et c'est une transcription d'une discussion sur les FPGA. Qu'est-ce que ça veut dire, Geoffroy Coupry, FPGA ?
Alors, FPGA, ça veut dire Field Programmable Gate Array.
Voilà. Et on compare ça avec les ASIC.
Et ASIC, je ne sais même plus ce que ça veut dire. Un ASIC, c'est globalement en très très gros, c'est un CPU, c'est-à-dire c'est une puce qui a été faite pour faire une tâche. Et elle fait cette tâche-là. Un FPGA, c'est un truc un tout petit peu plus haut niveau où en fait on peut reprogrammer le routage entre les transistors pour que ça fasse des tâches différentes. C'est-à-dire que vous mettez un routage dessus et le truc, ça va être un processeur RISC-V, par exemple. Ou vous le mettez à jour et maintenant ça va être un processeur ARM. Ou tout d'un coup, c'est un GPU. Ou encore même, vous en faites un truc qui va miner du Bitcoin ou je ne sais pas quoi.
C'est Application Specific Integrated Circuit.
Voilà. Comme FPGA, savoir ce que ça veut dire, ça nous fait une belle jambe.
Il y en a un qui est programmable et pas l'autre. Il y en a un qui est spécifique et l'autre, tu peux le programmer. Ouais. Globalement, c'est ça la différence majeure.
C'est ça. Et donc, c'est quelque chose de très séduisant, le concept d'un processeur qui peut se reprogrammer. Et là, il y avait une discussion entre des gens qui bossent dans ce domaine-là et qui font un peu un point de pourquoi on fait ça, où on en est. Alors, le transcript, ça se voit que ça troll beaucoup, hein, que c'est des gens qui ont un peu d'amertume sur un paquet de trucs.
Ils ont l'air un peu vexés quand même globalement, les mecs qui font des FPGA, ils ont un peu le seum.
Parce qu'en fait, ça se place entre ceux qui font des processeurs, des ASIC, où on fait une puce et puis on la vend, et puis c'est le truc le plus rapide. Par contre, une fois que c'est fait, c'est fait. Il faut refaire un modèle entier si tu veux changer quoi que ce soit. Et les gens qui font du software où si tu veux changer un truc, tu le changes, tu uploades ton code, tu t'en fiches, ça ne pose pas de problème. Et eux, trouver leur place là-dedans entre les deux, c'est pas très très simple. Et, mais il y a des aspects où c'est intéressant. Par exemple, ils parlaient dans les industries minières où des fois, ils ont des simulations à faire. Et leur anecdote, c'est que le temps de faire tourner la simulation sur un CPU normal ou un GPU, était beaucoup plus élevé que aller carrément faire le trou et voir comment ça se passe directement. Et donc, oui, le concept de faire le processeur à la volée qui peut effectuer ce calcul-là, c'est pas mal dans ce genre de cas. On peut imaginer ça aussi pour tout ce qui est machine learning, ce genre de choses aussi. Il y avait aussi un côté intéressant sur le time to market, notamment dans les télécoms. C'est-à-dire que si on vend un bout de puce qui va être utilisé dans un gros routeur et le routeur va être utilisé pendant 5 à 10 ans, si on veut pouvoir mettre à jour quelque chose dans du code qui doit s'exécuter extrêmement rapidement d'un point de vue réseau, c'est-à-dire qu'il doit s'exécuter dans la puce directement, donc le FPGA est intéressant.
D'un point de vue sécu, tu vois ça comment ? C'est-à-dire que si tu as des failles de sécu, tu dois corriger. Si tu as un truc programmable, est-ce que c'est pas plus simple de le gérer comme ça ?
Ou est-ce qu'on considère que c'est un failles de sécu dans ton CPU, ça existe, oui. Et les CPU qu'on met à jour, ça existe déjà, hein, on va le dire. Tous les ASIC ne viennent pas avec un concept de microcode qui peut être mis à jour, mais c'est effectivement quelque chose qui se fait déjà maintenant.
CF, un des podcasts précédents.
Ouais. Ouais, la seule image que j'ai des FPGA, c'est les clones de Game Boy et de Super NES.
C'est cool ça.
Qui sont basés là-dessus, notamment ceux de chez Analog qui sont assez stylés. Et petite pub, ils sortent bientôt un clone de Game Boy qui a l'air trop bien.
Ouais. Bref, tu peux leur trouver le lien, Hubert.
Ouais, je vais le mettre.
Sachant que pour émuler une Game Boy, enfin, je suis pas certain qu'on ait besoin d'aller jusqu'au FPGA. Enfin, la moindre boîte à chaussures peut faire tourner une Game Boy maintenant.
Hein. Enfin là, le design de l'appareil, au-delà de ce qu'il y a dedans, est assez cool. Mm. Et puis ça fait du MIDI, donc j'ai envie de dire, bien sûr qu'on a envie d'en acheter. Ça a l'air trop stylé.
C'est pas un émulateur d'ailleurs du coup. Hein. Ils sont vraiment réimplémentés.
Et ils sont bien, et ils reprécisent dans leur doc, si vous n'avez pas de cartouche Game Boy trouvée dans je ne sais pas quelle brocante, bah tant pis, mais ça ne supporte pas des ROM, etc.
Alors, reste à voir s'ils auront reproduit exactement tous les défauts de l'électronique de la Game Boy, notamment sur la carte son, qui faisait quelque chose de très très particulier, mais bon.
Déjà, en vrai, ce qui est drôle, c'est que c'est un écran très haute définition et qui reproduise du coup l'écart entre les pixels. Il reproduit vraiment l'affichage classique de la Game Boy. Et du coup, si tu es sur un jeu Game Boy ou Game Boy Advance ou je sais plus lesquels autres qui sont supportés, ils reproduisent vraiment l'écran tel qu'il était avec un faux écart de pixels et tout, la taille de pixels telle qu'elle était, etc. Ça va vraiment loin, quoi.
C'est beau. Justement, nous sommes partis trop loin.
Oui. Alors,
revenons au sujet original. Arrêtons de parler de FPGA et parlons de la complexité des imports. Et ça, c'est un lien d'Hubert. Donc, on va parler de JavaScript et d'import de modules ECMAScript.
Ouais, alors en fait, bon, c'est un peu mon sujet du moment là, depuis plusieurs semaines.
En tout cas, Hubert a des bons moments.
Depuis plusieurs semaines. Donc, ce que je partage, c'est une vidéo de Guy Bedford, qui a créé il y a des années un module loader qui s'appelle System.js. Et donc, sa vidéo, l'idée, c'est qu'il revient sur l'historique des modules en JavaScript avec Require.js, toute cette époque où Bower qui arrivait, qui faisait Package Manager et un peu loader aussi, machin. Et bon, il parle de System.js à lui, il fait un peu l'historique. Après, il reprécise que les modules ECMAScript sont arrivés, ou en tout cas, au départ, il y a la syntaxe import-export qui est arrivée, et le support dans les browsers et dans Node sont arrivés bien plus tard. D'ailleurs, dans Node, c'est en pseudo-stable depuis quelques mois. Dans Deno, est-ce que Deno est vraiment stable? Je ne sais pas, mais en tout cas dans Deno 1 point machin, les imports de modules ECMAScript sont stables comme il faut. Et donc, ce qu'il décrit, après avoir fait un historique, c'est, on va dire, trois concepts, trois propositions dans lesquelles il participe beaucoup, on le retrouve partout dans les issues sur GitHub, qui sont les import maps. Le export field dans le package JSON d'un module, qu'il soit front-end ou node, et le dep cache. Et donc, les import maps, en fait, tout le problème, c'est que depuis plusieurs années, même quand on fait des modules ECMAScript qui fonctionnent dans le browser, hein, je précise bien, en natif, tous les Evergreen browsers acceptent ça. Si vous mettez import React from React entre quotes, bah, le navigateur, il sait pas où aller chercher React. Alors que si vous faites import API from API entre quotes côté Node, Node, il sait aller le chercher dans ses Node modules. Et donc ça s'appelle, en général, quand vous importez depuis une string avec juste un nom, c'est un, ce qu'on appelle un bare import, un import bare à nu. Enfin, ouais. Et donc le concept d'import maps, l'idée c'est de dire via, je crois que c'est une sorte de JSON, vous allez préciser au navigateur où aller chercher différents imports via leur petit nom. Donc ça, à la base, on se dit, ouais, c'est pas très utile. Moi, de toute façon, je mets un port React dans mon code et j'ai Webpack ou Parcel ou Rollup qui réécrit ça avec, et puis ça marche. Sauf qu'en fait, maintenant qu'on a des modules qui se chargent nativement dans le navigateur, ça devient intéressant. Et le fait d'avoir un niveau d'indirection entre j'ai dit que je voulais React et quel fichier ça va vraiment chercher, eh bien, ça amène pas mal de fonctionnalités. Et donc, sur la fin, il a des démos. Donc, il fait une démo avec Preact, par exemple, où il peut aller choisir le build de prod, le build de dev avec tous les messages d'erreur. Il peut vraiment aller choisir quelle implémentation ça va marcher. Et en fait, moi, je vous conseille vraiment de vous intéresser à ça. Par exemple, nous, on a chez Clever, on a un client JavaScript pour notre API REST qui est utilisé par notre front-end côté navigateur et par notre CLI côté Node.js. Eh bien, pour l'instant, on package deux versions avec deux systèmes de modules. Et les import maps, typiquement, ça vous permettrait de ne plus vous soucier de est-ce que je dois importer Clever Client slash Browser ou Clever Client slash Node. Non, il n'y a plus tout ça. C'est via l'import map, voire c'est un peu automatique pour ce cas de switching browser versus node, ça vous permet de gérer ce genre de choses. Ça permet aussi, en tout cas dans les specs qui commencent à y avoir, de gérer ce qu'on décrivait tout à l'heure avec les SRI, les sub-resource integrity. Si vous chargez Preact ou React et qu'en dessous il charge React foo et React bar, bah là, ça vous permettrait dans l'import map, dès le départ, de dire bah, « Je sais que tu vas charger à peu près tout cet arbre de sous-dépendance de modules JavaScript et voici les hashes de chaque sous-dépendance. » Voilà, donc ça, c'est la partie un peu import map et ça permet pas mal de choses assez cool, comme je viens de le dire. Il faut aussi une démo du exports field qui est en… Alors, les import maps, je précise, c'est en unstable flag dans Chrome. C'est aussi derrière un flag dans Deno et dans Node, je ne sais plus, j'ai un doute. Mais ça discute, ce n'est pas encore là, mais ça discute. Le export field, l'idée, c'est que si vous créez un module JavaScript et que vous le déployez sur NPM, vous allez pouvoir préciser ce que votre module exporte. Donc, si vous travaillez sur jQuery, c'est assez simple parce que vous allez exporter un seul fichier avec juste jQuery. Par contre, si vous travaillez sur Lodash, qui contient par exemple plein de fonctions, Lodash map, Lodash sort by ou je sais pas quoi, ce que font actuellement les gens, c'est qu'ils mettent en ligne sur NPM un module avec tout et proposent aux gens d'aller importer Lodash slash et puis le fichier avec juste la fonction dont vous avez besoin. Et en fait, le export field va vous permettre, vous, en tant qu'auteur de librairie, de préciser dès le départ quels fichiers sont vraiment utiles à être importés par les utilisateurs. Donc, bah, autocomplétion dans les IDE au lieu d'aller piocher un fichier dans le module. Et puis, pas mal d'outils de build vont pouvoir commencer à se servir de ça. Et même si, par exemple, Lodash est publié en un seul fichier sur NPM, vous allez pouvoir dire, en tout cas avec JSPM, c'est possible, vous allez pouvoir dire, je veux installer Lodash sort by, et ça va juste récupérer ce truc-là. Donc, c'est que des brouillons pour l'instant, ça bouge pas mal en ce moment, mais c'est vraiment intéressant. Ce que je trouve assez cool, c'est que dans une des dernières démos, il revient sur le fameux problème que quand vous commencez à utiliser des modules ECMAScript natif dans le browser et qu'il y a tout un arbre de sous-dépendances via HTTP1 et même avec HTTP2, vous allez commencer à avoir l'arbre qui se charge en waterfall, par escalier. La première dépendance, le deuxième niveau de sous-dépendance, etc. Et donc, il revient sur le fait qu'HTTP2 push ne résout pas le problème. Et ça, c'est un truc sur lequel on reviendra, nous, chez Clever, parce qu'on fait aussi des analyses là-dessus. Par contre, il fait des démos un peu avec tout ce qui est preload, qui est dispo dans Chrome, bientôt dans Firefox. Il fait des démos avec d'autres techniques et il propose un système qu'il appelle la DEP cache et qui permettrait aussi, dans votre package JSON, de préciser dès le départ quelles sont les sous-dépendances qu'il faudrait précharger. Et donc, c'est pareil, c'est une autre proposition à standardiser qu'il fait. Et franchement, en 25 minutes, vous avez ce que je viens de dire, historique, ces trois nouveautés avec les explications et la démo. Et je trouve ça assez cool. Je cite un dernier exemple. Nous, on publie nos composants web Clever en un seul module NPM. Si vous voulez faire NPM install Clever Components et utiliser que le button, actuellement, vous devez savoir qu'il est dans /dist/button.js, machin, c'est un peu chiant. Là, avec le export, on va pouvoir proprement le faire. Puis ça évite un truc que font beaucoup de gens de plus en plus, à savoir de créer un paquet NPM pour chaque sous-dépendance, ce que je trouve très fastidieux, mais qui actuellement a encore des avantages. Voilà. Je peux en parler encore longtemps.
On garde ça pour ta prochaine
intervention. Mais regardez cette vidéo.
Voilà, c'est l'heure. Il est l'heure du lancer de dés. Je suis de 1 à 5, Geoffroy Couplou, vous êtes de 6 à 10, Hubert de 11 à 15 et Alex de 16 à 20.
Et ce jeu est truqué.
19.
Ah, ah, c'est moi.
Je n'ai jamais choisi.
Alors, dis-moi, qu'est-ce que c'est ? Non, c'est pas.
Alors, il faut que je m'en souvienne, parce que comme je disais tout à l'heure, du coup, c'est un lien que j'ai au départ choisi il y a de nombreuses semaines.
Il faut préciser, Alexandre est comme moi, il garde le même tant qu'il n'est pas choisi. Moi,
c'est ça,
même
en fait.
La première fois
que je suis choisi,
c'était ta musique.
C'est vrai.
Et donc, c'est une musique qui croise un peu un côté hip-hop et jazz à la fois. J'ai trouvé le mélange vraiment cool. C'est loin d'être les seuls à faire ça d'ailleurs, mais c'est vraiment un mélange de genres qui me plaît beaucoup et celle-là est vraiment très très agréable.
Cool. Et il y a d'autres morceaux de ce groupe qui sont cool ?
J'en ai pas écouté d'autres de ce groupe-là. Par contre, sur Spotify, il y a une playlist jazz rap qui est vraiment cool. Ouais. Je ne suis pas un grand écouteur de rap généralement, mais franchement, les deux mélangés donnent des trucs vraiment très sympas.
Cool. On va écouter ça.
Eh bien, merci. Merci à tous. Merci de nous avoir écoutés. Merci
à tous.
Geoffroy, Hubert et Alex. Et on vous dit à la
semaine prochaine. À la semaine prochaine.
Bye bye.